Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Philippe Hervègue.
Bonjour.
Je pourrais vous dire un bon anniversaire, à l'Orchestre des Champs-Élysées, qui souffle ses 20 bougies déjà. C'était en 1991. Vous aviez déjà, à ce moment-là, derrière vous, déjà un curriculum vitae, on va dire, assez impressionnant. Il y avait l'envie d'amener les instruments anciens sur un répertoire autre, à l'origine. Quelle était en fait vraiment l'idée de départ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en vous, tant en termes de répertoire qu'en termes de formation, cette idée de cet orchestre depuis un certain temps?
Eh bien, donc, je sortais d'une aventure qui était de beaucoup de mes amis. Et c'est parti plutôt du nord, donc Belgique-Hollande. Une aventure que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire que, sous la houlette de quelques très grands musiciens que j'ai eu le bonheur de connaître de près, avec lesquels j'ai travaillé, je parle de Gustave Léonard et de Nicolas Arnoncourt, qui étaient un peu des chefs de file ou bien des papes de ce mouvement, il y avait l'idée que tout un répertoire, avant tout merveilleux, parce que c'était quand même la qualité des partitions qui comptait avant tout, c'est-à-dire la musique de, évidemment, Jean-Sébastien Bach, mais aussi Monteverdi, Froh, Berger, Schein, Schütz, et puis la musique française, Lully, Charpentier, Rameau, que cette musique-là, qu'on jouait plus tellement dans les salles de concert, je parle des années, disons, 60 chez nous et 70 ici en France, que peut-être que ce répertoire n'était plus joué parce que jouer sur des instruments tels qu'ils étaient devenus, parce que vous savez que les instruments, comme les voitures, évoluent continuellement, donc un hautbois de l'époque de Bach et un hautbois de l'Orchestre de Paris, ce sont de lointains cousins, disons. Mais si on rejoue toute cette musique du 18e sur les instruments d'époque, ça reprend tout son lustre, j'allais dire, mais ce n'est pas le bon terme, sa vérité et sa véritable beauté. Et donc c'est tout un mouvement de la musique baroque, historiquement informée, comme on dit aujourd'hui, qui au départ était très critiqué, d'une part par la fragilité réelle des premier concert, puisque tous les instrumentistes ont dû réapprendre à jouer sur tous ces instruments, même ceux qui étaient très bons, qui avaient fait des études de bois moderne, devaient brusquement réapprendre à jouer au bois baroque. Et donc, il y avait d'une part une fragilité des concerts, mais d'autre part une incompréhension. C'est un peu comme quand on change son salon. On met les canapés là où ils n'étaient plus et le public ne reconnaît plus vraiment, lorsqu'il s'agissait des grandes œuvres, par exemple, la Passion Saint-Matthieu, qui avait été longtemps jouée par de grands chefs, entre guillemets, post-romantiques, et qui dégoulinait de grandiose, brusquement était réduit à sa véritable beauté, c'est-à-dire quelque chose de lumineux, de transparent. Et donc, j'avais fait partie de cette aventure-là, au début contestée une partie du public et de la presse, et ensuite, qui est devenue une mode maintenant, que 40 ans plus tard, c'est même presque un peu trop une mode. Mais nous, on s'est demandé, j'avais à l'époque 30 ans, j'avais beaucoup participé à ce mouvement, Il y a 40 ans, je me disais, je ne vais pas rester éternellement dans ce répertoire-là. Il est très beau, évidemment. Mais moi, j'aime la musique tout entière, et la musique plus ancienne encore, parce que pour moi, la musique la plus belle, c'est peut-être la musique renaissante. Mais la musique baroque, c'est beau, mais c'est limité quand même. Et ensuite, il y a toute la musique romantique et la musique contemporaine. Donc, je ne voulais pas m'enfermer moi-même dans un territoire trop restreint. Et puis on s'est dit, mais les mêmes principes qui étaient à la base de ce mouvement baroquisant, disons, pour l'appeler ainsi, on pourrait penser que ça donne des résultats intéressants également quand on les applique, ces principes, sur le répertoire plus tardif. Et donc je n'étais pas le seul à penser ça, évidemment.
Franz Bruggen avait aussi...
Il y avait déjà quelques orchestres avant nous, comme Franz Bruggen, qui, avec un grand, non seulement succès, mais surtout avec un grand... talent, pour ne pas parler de génie, parce que ce terme génie, je le réserve aux compositeurs, avait effectivement donné un Haydn plus authentique, plus percussif, plus vrai, peut-être, plus, et donc pour moi plus émouvant. Et donc, il y avait aussi quelques orchestres déjà en Angleterre, comme celui de Gardiner qui débutait. On s'est dit, nous aussi, on pourrait faire ça, et ce serait merveilleux, avec les mêmes principes, d'aborder la musique de Haydn, de Beethoven, et puis de Schumann, de Mendelssohn. Et très vite, avec l'Orchestre des Champs-Élysées, on s'est dit, plutôt que de faire nous aussi ce que fait tellement bien Franz Bruggen, c'est-à-dire Haydn, cette période-là, osons aller un peu plus loin, faisons du Mendelssohn, du Schumann. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'était très fragile au début, mais je pense qu'aujourd'hui... ce chemin-là est irréversible. Je pense que, donc, de jouer tout ce répertoire-là sur des instruments adéquats, c'est quelque chose que personne ne conteste plus, je crois, du moins les gens informés et qui ont des oreilles musicales et qui comparent. Parce que je pense que j'ai un grand respect pour Gardiner, par exemple, ce qu'il fait dans Beethoven avec son orchestre à lui. Et bien voilà, on ne peut plus l'oublier, c'est devenu une espèce de référence. Je ne dis pas, ce n'est évidemment pas la seule façon de jouer Beethoven, mais c'est une référence. C'est un... voilà.
Au-delà de votre envie, votre curiosité, que vous avez décrite, vous vous êtes mis un peu, en refaisant ce petit résumé historique, un peu dans le même groupe que les Léonard ou Armancourt, vous êtes quand même d'une génération différente. Est-ce que justement, la rigueur, le fait d'être avec des maîtres comme Léonard, par exemple, qui eux sont restés effectivement sur un répertoire, on va dire, moins vaste que ce que vous proposez aujourd'hui, même si votre étiquette de baroqueux qui vous colle toujours, alors que pourtant vous avez, jusqu'au bout, vous aurez cette étiquette, alors quand on regarde évidemment vos les concerts, aussi bien les enregistrements, on sait que vous ne vous limitez pas à ça. Est-ce qu'il y avait aussi une envie de réagir par rapport justement à ce que vous avez évoqué, toutes ces polémiques qu'il y avait sur le courant baroque, qu'on taxait souvent, un peu d'ayatollah, etc., de dire que votre vision justement n'était pas du tout exclusivement, était beaucoup plus vaste et beaucoup plus large et beaucoup plus à 360 degrés, et moins restreinte que les critiques voulaient le laisser entendre.
Oui, mais d'abord je voudrais nuancer Gustav Leonhardt, un très grand musicien. Effectivement, c'est cantonné volontairement dans une musique antérieure à Mozart. Je pense que Leonhardt, tant que je sache, sauf un disque Grétry, enfin, qui est plus ou moins contemporain, qu'on a fait ensemble d'ailleurs, je pense que Leonhardt trouve qu'à partir de Mozart, la musique est devenue décadente et ça n'intéresse plus. Bon, c'est
son opinion.
Son opinion, et puis c'est un peu provocateur aussi de sa part. Mais effectivement, je crois que chez lui, il écoute très peu la musique de Courtag, de Ligeti, de Schoenberg ou de Brahms, je trouve. Voilà. Mais ça n'empêche pas, c'est un très très grand musicien. Et personne ne joue mieux Froberger ou Couperin que lui, je pense, encore aujourd'hui, même à son âge. Mais Armancourt, par contre, a été le premier à s'échapper. Et puis, personnellement, je trouve qu'Armancourt est un très grand musicien et chef. Mais ses plus belles réalisations ne sont pour moi pas du tout dans le domaine baroque. Il est parti de là. Mais ce qu'il a fait de plus... enfin, je sais pas, de plus... puissant, le plus valable, le plus beau, enfin ces termes, ce sont des termes, c'est dans des domaines, enfin, non baroques, mais plutôt romantiques, et voilà, c'est au 19e, disons. Mais par rapport à votre question, nous, musiciens, on fait partie d'une vie économique de la musique, évidemment, C'est-à-dire, on doit donner des concerts dans des salles qui doivent se remplir. Donc il y a la presse, il y a tout un processus autour de ça. Et plus on est, en quelque sorte, un, dans des ensembles plus importants comme un orchestre, et deux, dans une réputation plus grande. Enfin, je veux dire, quand on est un pianiste inconnu, on fait ce qu'on veut dans son coin. Mais quand on est chef d'un orchestre, évidemment, en sommet, il y a des, enfin, économique, il y a des orchestres qui sont de véritables petites et moyennes entreprises, comme tous les orchestres permanents, et surtout certains, comme le Concertgebouw d'Amsterdam. C'est une entreprise à la fois musicale et économique en même temps. Et donc, on fait partie d'un processus économique de vente, de politique, de subvention, de sponsoring, de presse. Et puis, tout cela entraîne que la presse, en particulier, aime bien, évidemment, disserter de tout ça, et puis cataloguer, coller des étiquettes. Et par exemple, effectivement, le terme baroqueux, enfin, pour moi, c'est d'abord un mot assez laid. Ouais. Et puis, ça veut... Ça ne veut rien dire. Enfin, notre envie à nous, musiciens, c'est de faire de la musique. Et quels sont nos désirs à nous, qu'on soit pianiste ou claveciniste ou chef d'orchestre ou... Enfin, tous les musiciens, chanteurs. Qu'est-ce qu'on veut, chanter de la très bonne ou faire de la très belle musique dans de bonnes circonstances. Et pour moi, le premier ressort a toujours éventuellement gagné notre vie en faisant cela. J'ai eu le luxe suprême de que ce dernier terme, gagner ma vie, n'a jamais été le premier terme. C'est-à-dire, c'est vrai que je gagne bien ma vie maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais ça n'a jamais été mon but et ce ne sera jamais. Et puis aujourd'hui, j'ai 63 ans, ce n'est plus nécessaire, j'ai ce qu'il me faut, et voilà. J'ai eu l'énorme luxe d'être au-delà de cet aspect-là des choses. Donc, qu'est-ce qui m'a motivé toujours? C'est simplement la recherche de la très bonne musique, enfin. Et moi, d'abord, je suis dans un domaine déjà limité, qui est la musique occidentale, déjà c'est limité. Puis dans la musique occidentale, je suis dans ce qu'on appelle la musique classique, et pas dans le jazz ou dans la musique rock ou pop ou d'autres musiques qui peuvent être, je pense, très fortes et valables. Mais je suis dans mon petit domaine. Au moins, mon désir, c'est de connaître... je suis très curieux de ce domaine. J'ai envie d'à la fois connaître Chicogna et j'allais dire, Luc Breweis, un compositeur belge contemporain génial, je trouve, que j'aimerais défendre. Et donc voilà, c'est ça qui me motive. Et puis, comme je suis chef d'orchestre, et de chœur, mon but, c'est d'avoir l'opportunité de diriger des partitions aussi puissantes que possible. Enfin, et ça veut dire aussi émouvantes pour moi-même, qui me parlent à moi, qui sont pour moi, disons, quelque chose d'essentiel dans ma vie émotionnel, personnel ou intellectuel, ou les deux ensemble, si faire se peut. Et c'est, voilà, mon seul but. Évidemment, parmi ces musiques très fortes, il y a les opéras de Verdi. Je n'irai pas les diriger demain parce que c'est en dehors de mon champ d'abord de compétences, parce que l'opéra, de façon générale, c'est pas mon domaine, disons. Et puis, ce type d'émotion-là, à la fois, je vois que c'est très fort, et quand il m'arrive d'en écouter, je peux très bien vibrer, mon âme vibre avec cette musique. Je crois que je suis assez sympathique, dans le sens étymologique du terme, pour comprendre cette musique, mais c'est en dehors de mon champ. Également, une musique comme certaines musiques de Ligeti, je ne vais pas très vite les diriger, parce que ça présente une difficulté technique telle que ça sort également pour d'autres raisons techniques de mon champ d'expérience et de compétences. Mais enfin, heureusement, il reste un champ assez large dans lequel je peux à la fois me projeter, exister et faire, j'espère, un travail sérieux.
comme vous l'avez dit, vous êtes chef d'orchestre aussi de chœur, ça tombe bien, puisque vous venez de sortir un album Brahms, de pièces d'ailleurs parfois peu enregistrées. Comment se fait le choix de l'ordonnancement de ces pièces?
Ben, c'est ce que je viens de dire avant cette question. Justement, je pense que j'ai une grande expérience dans la direction de chœur. Avec le collégium qui existe depuis 40 ans et qui n'a, à mon avis, pas cessé de grandir en qualité, on a aujourd'hui un chœur, disons, symphonique, parce que le collégium, c'est aujourd'hui quelque chose de très... Il y a trois sous-sections. On fait de la musique renaissante avec des chanteurs spécialisés. Ils seront plutôt 6 ou 12 maximum. Et c'est un certain type de chanteur. Puis on fait Bach, Scheinschütz, la musique baroque avec d'autres chanteurs. Mais puis j'ai décidé, il y a 10 ans, disons, de fonder un chœur symphonique, c'est-à-dire de 60 à 80 personnes. Et ce sont des jeunes de 20 ans qui viennent de terminer leurs études de chant, et ils proviennent de toute l'Europe, de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Estonie, de Lituanie, d'Espagne, etc. Et puis, avec un tel chœur, qui n'en est pas un, puisqu'ils sont ce sont des individus très doués, et souvent les chœurs, c'est une masse un peu flasque, je dirais, c'est un grand bonheur pour moi de jouer tout ce magnifique répertoire du 19e et du 20e. Et donc je fais, pour répondre à votre question, finalement, les chefs-d'œuvre ou les musiques, j'ai 63 ans, il me reste peu de temps, j'allais dire. Donc j'ai envie de diriger de très bonnes musiques. Et même dans le 19e, ce qui a été écrit pour chœur, orchestre, vraiment de très haut niveau, bah finalement, il y a, je sais pas, 20, 30 œuvres. Et parmi cette trentaine d'œuvres, il y a évidemment ces œuvres-là de Brahms, évidemment, non seulement son Requiem, que j'ai déjà enregistré, que je voudrais réenregistrer, mais aussi ces œuvres-là, comme Schicksalslied, Begräbnis Gesang, le chant des parcs, la Rhapsodie Serrato et certaines autres œuvres, qui à mon avis sont de très haut niveau et parfois très peu connues, une raison de plus de les enregistrer.
Justement, quelle valeur vous donnez à ces pièces qui, je crois, pour la grande majorité, ont été écrites après le Requiem?
C'est très simple, c'est des œuvres magistrales, géniales, sur de très beaux textes en plus de Hölderlin, de Goethe, et qui... Il faudrait alors discuter. Je pense que pour tout musicien, il est plus ou moins clair et indiscutable ce qui est de la bonne musique et ce qui l'est moins. Pour moi, je pense qu'un panel, enfin, je veux dire, une assemblée de musiciens avec une vraie culture, c'est-à-dire, c'est un peu comme pour les... J'allais dire, je suis pas connaisseur de vin, mais j'ai beaucoup d'amis qui le sont. Et je pense qu'en gros, lorsqu'on fait goûter... 50 vins à des connaisseurs de vin, ils vont en gros tomber d'accord, voilà un bon vin, voilà un vin moins.
Il y a toujours les exceptions aussi, celles qui à titre personnel vont vraiment...
Oui, et en musique c'est exactement pareil, il y a la qualité de facture, et il y a un lien mystérieux, mais néanmoins existant, entre la qualité, j'allais dire, de facture d'une musique, c'est-à-dire la qualité de... la richesse d'imagination du compositeur dans des domaines tout à fait pragmatiques qui sont harmoniques, rythmiques, contrepoint, l'architecture en gros, et la richesse d'imagination du compositeur qui elle-même est déterminée par sa culture, très souvent, c'est pas toujours le cas, mais je veux dire, sa connaissance de la musique d'avant lui, du passé. Deux, par son génie combinatoire, qui est un peu comme un joueur d'échecs, ça se passe à ce niveau-là. Et trois, par la richesse de sa vie intérieure, qui n'est pas toujours liée à une vie extérieure riche, parce que ça peut être des personnages comme Bruckner, qui apparemment... n'ont pas eu de vie extérieure du tout. Mais donc ces trois paramètres, la culture musicale, la puissance imaginative, comparable à celle des joueurs d'échecs, et la richesse de la vie intérieure, de l'âme si on veut, ou du cœur, ça c'est des termes, eh bien ces trois paramètres définissent la qualité d'une musique. Et je me répète, je pense que si vous mettez là 10 musiciens qui connaissent l'histoire de la musique, mais de l'intérieur, et qui ont un jugement impartial, je pense qu'en gros, ils vont tomber d'accord, un peu comme pour dire, je pense que personne ne contestera le fait que parmi ceux qui ont écrit, Shakespeare est un des grands. Ben, de la même façon, Brahms est un des grands. Et dans l'œuvre de Brahms, ses œuvres sont parmi ce qu'il a écrit de plus beau, sans doute. C'est, voilà.
Ah, il y a une différence aussi quand même entre, vous avez dit Shakespeare et Brahms par exemple, c'est qu'entre Shakespeare et le lecteur, il n'y a personne. Alors qu'entre Brahms et l'auditeur, il y a vous.
C'est ça mon gagne-pain.
Il y a vous. C'est ça mon gagne-pain. Comment vous immiscez justement l'interprète, le chef, dans ce triptyque que vous avez très bien décrit de l'œuvre? Est-ce que c'est...
Eh bien, voilà,
est-ce que vous avez une vision d'ailleurs très claire quand vous êtes engagé dans votre vie artistique, dans votre vie musicale, de vos études, du rôle de l'interprète?
Ben, l'interprète, c'est comme s'il existait la chapelle Sixtine, en réalité. Et ça, c'est les œuvres de Brahms, par exemple. Et moi, je suis le photographe qui, à des personnes qui jamais ont l'occasion de visiter la chapelle Sixtine, doit, par ses photos, donner à voir cette chapelle Sixtine. Donc, ou un photographe ou un peintre. Voilà. Je pense que les très grands interprètes, c'est les peintres qui, à la rigueur, s'éloignent un peu de l'original, mais en donnent qui ajoutent leur génie personnel de peintre. Mais à minima, c'est le photographe qui... Et encore, pour faire la bonne photo,
bon objectif,
il faut le matériel qu'il faut, un bon orchestre, il faut aussi l'œil. Et l'œil, c'est l'œil de l'imagination du chef, qui est, je veux dire, rien du tout par rapport à l'œil de celui qui a créé. Mais quand même, il faut un peu cet œil, quand même.
Qu'est-ce qui vous a aidé, justement, à trouver l'œil, l'angle et la luminosité quand vous avez commencé à, tout simplement, même à savoir que vous aviez envie, vous aviez quelque chose à dire?
Ben, je pense que là, c'est quelque chose que... Si, ça... Bon, il y a d'une part tout le côté technique qui, chez moi, je pense pas, c'est accessoire. Mais j'imagine que c'est un certain, quand même, talent qu'il faut qu'on ait et que j'espère avoir un tout petit peu, quand même. C'est-à-dire une espèce de correspondance d'âme entre ces... Enfin... Quand je dirige un mouvement lent d'une symphonie de Bruckner, j'ai l'impression que ce mouvement lent d'une symphonie de Bruckner, par exemple, pour citer, c'est plus fort que toute la réalité, entre guillemets, réelle. Mais si j'ai cette impression, c'est que mon âme vibre avec cette musique, et c'est ça peut-être mon petit talent. Je n'ai pas créé cette œuvre, mais au moins ma petite âme a cette capacité qui me donne beaucoup de bonheur à moi, que j'espère partager un peu, enfin ça commence à faire cato, avec l'auditeur, non mais c'est une espèce d'empathie, quoi, de voilà, il faut au départ sans doute, et sans doute que les êtres, tous ces compositeurs de la musique occidentale, savante, étaient des gens très malheureux. Il faut être pas mal malheureux pour comprendre cette musique, pour pouvoir la partager avec d'autres gens également malheureux et qui, en l'écoutant, pendant un instant, le sont un peu moins.
C'est quand vous êtes engagé dans vos études en médecine psychiatrique, ça vous a aidé, finalement?
Pas du tout, une voie erratique. Non, c'est intéressant, la psychiatrie, mais je suis personnellement très content, je suis énormément musicien. Ceci dit, je pense qu'il faut des psychiatres, bien sûr. J'ai eu dans ma famille des cas de malades psychiatriques, et heureusement qu'il y avait des psychiatres pour les aider. Mais moi, je pense que je doute de presque tout, sauf de l'utilité de notre métier, nous, de musiciens. Disons, c'est dur de nous mettre en condition d'être utile, parce qu'il faut les moyens, notamment, et par exemple, en période de crise, il y a tous ces problèmes-là. Mais je ne doute aucunement de l'utilité d'un concert au Concertgebouw, d'une symphonie de Bruckner, devant 2400 personnes venant de préférence de toute la société seulement. Et je veux dire, la musique, c'est bien plus qu'un prélassement pour les riches, mais je ne doute aucunement que la musique peut être utile et est utile, enfin. À beaucoup de gens, enfin, je crois. Et d'ailleurs, on dit crise, mais en même temps, je donne une centaine de concerts par an, en général, Dieu soit. Dieu merci, devant des salles pleines. Et je veux dire, apparemment, il y a un besoin. Enfin, l'art est... on ne sait pas à quoi il sert, mais il est essentiel, ça c'est sûr. Et notamment la musique.
Quand, même si évidemment il y a une adhésion pour une œuvre et un choix vraiment artistique, si on prend cet exemple d'album de Brahms sur des pièces peu enregistrées, est-ce que le fait justement d'aborder parfois des œuvres qui sont méconnues, oubliées du public, ça motive davantage, on se sent un rôle autre que celui juste d'interprète et de quelqu'un qui transmet quelque chose, une œuvre qui déjà à la base est considérée comme importante. Ou non, finalement c'est vraiment accessoire et anecdotique?
Non, pas du tout. Le rêve, c'est que la musique, comme tout art, soit en phase directe avec la réalité des contemporains. Or, il se trouve que nous jouons en général, nous musiciens, la musique du passé. Alors, ce qui est... Je trouve que... Évidemment, l'identité de tout un chacun est un mélange de passé et de présent. Et votre réel quotidien à vous, c'est un mélange de ce que vous vivez aujourd'hui et de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie à vous. En tant que société, notre réel d'aujourd'hui est également un mélange de notre présent et puis de toute notre histoire. Eh bien, je trouve qu'en tant que chef ou en tant que directeur de salle, on a le privilège de pouvoir choisir ce qu'on joue. Un musicien d'orchestre n'a pas ce privilège parce qu'il doit jouer ce qu'on lui propose de jouer. Donc c'est en même temps un privilège et un peu une responsabilité quand même. Et je trouve que la musique classique aujourd'hui, autrefois là, on jouait essentiellement la musique contemporaine jusqu'à l'époque de Stravinsky. Aujourd'hui, pour des raisons dont on pourrait parler, on joue surtout la musique du passé. Donc, il est, à mon avis, criminel, mais ça va trop loin, enfin, dommage de dégrader la musique comme entertainment, c'est-à-dire d'aller dans le sens du poil, des foules, et donc il y a aujourd'hui une pente glissante vers le star system, vers ce qui remplit les salles, vers ce qui rentre facilement. Et je trouve que j'ai une grande admiration pour les directeurs de salles, les chefs d'orchestre, ou les interprètes, qui ont le courage de choisir des musiques et de les imposer carrément au public qui ne les connaît pas, parce que ce n'est pas leur métier, qui réellement sont spirituellement vitales pour nous tous. Et voilà. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que je voudrais répondre que c'était un grand... privilège de travailler dans le domaine de la musique ancienne, ce que je suis encore partiellement. Par exemple, dans le domaine de la musique renaissante, il existe encore énormément de répertoires méconnus, pas connus, et ça vaudrait la peine de déterrer davantage Ockeghem, Josquin des Prés, Orlando di Lasso, Lobo, Vittoria, Burt, parce que je pense que c'est une très grande musique que le public connaît trop peu, et je trouve qu'il y a trop peu de groupes qui se consacrent à ce domaine. Parce qu'il est vrai que le public découvrirait un répertoire fascinant qui aujourd'hui encore est moderne. Un peu comme si on avait un grenier avec des Velasquez que personne ne connaîtrait, d'ouvrir ce grenier, de montrer au public, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'a fait et c'est le mouvement de la musique ancienne.
Oui, c'est ce que j'allais dire, même déjà à l'époque de Léonard.
C'est ce qu'on faisait.
C'était
le plus grand mérite de ce mouvement. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile dans le domaine de la musique du 19e. Ce serait un grand bonheur pour moi de découvrir un compositeur aussi, disons, essentiel que Beethoven ou Brahms ou Debussy. Mais je pense qu'ils n'existent pas. Malheureusement, tous ces compositeurs véritablement fondamentaux sont connus. Donc tout ce qu'on peut ajouter, c'est une relecture un peu différente selon nos principes d'interprétation, peut-être un peu novateurs, ou bien alors notre personnalité différente. C'est-à-dire que les grands chefs des années 30-40 ont donné leur vision de Beethoven avec leur talent, mais aussi les conceptions globales, musicales et artistiques qui étaient celles des années 50. Et maintenant, un Gardiner donne sa vision de Beethoven avec cette exigence de technicité parfaite, peut-être une certaine froideur, qui va très bien avec le monde technologique qui est le nôtre. etc. Donc les grands chefs-d'œuvre méritent et peuvent, enfin supportent plusieurs éclairages différents. Et notre mode, je me sens un peu un jardinier d'un magnifique jardin, moi je suis un petit jardinier, d'un magnifique jardin, la culture musicale du passé, que nous nous devons d'entretenir. Et l'entretenir, ça veut dire jouer.
Jardin, il y a ce potager qui s'appelle Fille, qui est votre label que vous avez.
Un potager, c'est pas mal. Ben oui, enregistrer, ça fait partie du, j'allais dire, du jeu, parce que c'est le but d'enregistrer, c'est pas du tout commercial, parce que personne, enfin, je veux dire, il y a autre. Dans les années 60, 70, ça a été un enjeu commercial au profit non pas des musiciens, mais des grandes boîtes. Et aujourd'hui, ça n'est plus du tout. On peut être très heureux quand on s'en sort plus ou moins financièrement. Et il faut s'en sortir, sinon on se casse la figure, on ne peut pas continuer. Mais le plaisir d'enregistrer, c'est pour moi de se mettre dans des conditions musicales idéales. C'est-à-dire, on ne va pas aller enregistrer une œuvre quand on n'a pas l'idée, enfin, d'être dans des conditions idéales au niveau, par exemple, d'acoustique dans le lieu. Enfin, très souvent, nous donnons des concerts, des neufs dans des conditions acoustiques pas idéales, et bon, il faut s'en contenter, avec parfois des distributions pas idéales pour telle et telle raison. Et quand on fait un disque, le grand privilège, c'est d'enregistrer dans une acoustique idéale avec les interprètes que nous trouvons idéaux à ce moment-là, et en se donnant les moyens de fignoler jusqu'au bout. Et il y a un côté, un très grand moment artistique intérieur, idéalement, et ça l'est souvent. Et puis, il y a un côté Laisser des marques, peut-être.
Est-ce qu'ils ont une valeur pour vous, c'est-à-dire entre un concert et un disque, quelque chose qui va rester? Là, ce label, pour l'instant, il y a eu un quatrième de malheur, il y a eu les motets de Bach, il y a ce disque Brahms.
Mais rester, non, ça va se vendre à quelques milliers d'exemplaires, quelques dizaines, si tout va bien. Et puis, ça sera dans les bacs des antiquaires, enfin, ou...
Sur des disques durs
c'est simplement un témoignage de... Mmh. Voilà. Mais pour nous, c'est fantastique. C'est, je pense, un peu... En même temps, comme pour un athlète, participer à des espèces de jeux olympiques virtuels. C'est-à-dire, on va aussi loin que possible dans la qualité possible. Et en soi, on... Oui, c'est un peu ça.
Il y a la possibilité de se réécouter.
Ce n'est pas une compétition par rapport aux autres. Mmh. C'est plutôt donner le meilleur de soi-même à un moment donné. Et ça, c'est aussi fantastique. Et ça, c'est ça, faire un disque, c'est dans un lieu donné, à un moment donné, donner le meilleur de soi-même. Évidemment. Dans l'absolu, en plus, pas envers un public réel qui est là On vient de faire un disque de la Missa Solemnis de Beethoven dans une salle donnée à Bruges, une très belle salle. On l'a fait la veille pour le public. Au niveau acoustique, on joue quand même envers le public, et c'est normal, on est au service du public. Mais quand le public n'est plus là, il n'y a plus que les micros, on joue pour l'acoustique abstraite de cette salle, dans un absolu plus pur encore, peut-être, je trouve.
Ça a toujours été ça, cette façon, cette description que vous venez de donner, justement
Oui, tout à fait, ouais. Une espèce d'absolu. Ouais. Idéalement, évidemment, il faut un public, mais le public est virtuel, mais il n'y a plus... un chanteur chante autrement lorsqu'il a besoin, notamment, de toucher le troisième balcon, ou bien s'il chante idéalement, n'ayant pas cet impératif-là. Évidemment... Ça, c'est positif. Ce qui est moins positif, peut-être, c'est l'absence d'écoute humaine. Mais cette écoute est là quand même, parce qu'on sait que les gens vont écouter à Londres, à Moscou, à Berlin, à Paris. Et voilà.
Vous avez quoi comme envie pour ce label en termes de répertoire enregistré? Vous avez parlé de Bussy tout à l'heure.
Bien, ce répertoire est un peu... Il s'appelle Phi, c'est un peu... Moi, je m'appelle Philippe Hervec, donc Phi. Mais je voulais dire surtout que c'est Phi, c'est la lettre grecque symbole du nombre d'or, donc d'un peu de la beauté. Et puis non, c'est quand même... Ce serait un peu le reflet de ce que je fais. Et c'est bien pour ça que j'ai eu l'occasion de créer ce label, pour être complètement libre et pas dépendant des exigences de marché qui sont... des exigences qui ne sont pas les miennes. Mais simplement un reflet de ce... des plus... belle production que je ferai dans les années qui viennent, à mon avis, enfin. Et c'est donc aussi bien au niveau de la musique renaissante, on vient de faire un disque Victoria, le prochain sera un disque Burt, avec un petit groupe vocal, donc a cappella. Puis on continuera des cantates de Bach, de Schein, de Schütz, le répertoire baroque, mais qui m'intéresse de moins en moins, en fait, personnellement, en dehors de Bach. Et puis, avec ce cœur unique au monde, je trouve, même si je dis moi-même, de qualité, qui est le grand cœur du Collegium, j'aimerais graver, disons, tous les grands oratorios du 19e siècle, du 20e, et même la commandité des œuvres de grands compositeurs, on dit ça, commandité, à de grands compositeurs contemporains, et donc un peu faire un enregistrement. Enfin, enregistrer les plus belles œuvres écrites pour chœur et orchestre, de Haydn à, j'allais dire encore une fois, Luc Borweis, dont je fais la publicité, dont il n'a pas besoin d'ailleurs, mais c'est un grand génie, pas encore très connu, mais qui vit toujours là, même s'il est plus très très jeune. Et donc, d'enregistrer les grandes œuvres de Haydn, peut-être Mozart pas trop, mais puis il y a quelques œuvres encore de Beethoven enregistrées, de Schumann surtout, de Liszt, de Bruckner, de continuer dans Schubert, et voilà, Kurt Weill, Stravinsky. Et voilà, mais là je vous parle, il y a déjà un programme pour les 8 ans à venir, et voilà, j'espère que j'aurai le temps de faire tout ça.
Vous avez prononcé tout à l'heure le mot de crise, quand on essaye de créer, d'avancer, de faire découvrir des œuvres, d'avoir ses envies personnelles, d'enregistrer, de jouer. Vous avez dit « j'ai envie de réenregistrer », je crois que c'était le Requiem allemand, je ne sais plus quel vous citiez tout à l'heure. Comment on gère justement toutes ces envies parallèlement à une crise du disque, peut-être difficulté. Vous avez quand même réussi, vous montez un label malgré tout. Comment on jongle avec toutes ces choses-là, et comment ce concept bien réel de crise intervient sur, sur l'artistique et sur...
Bien, disons, il faut des managements très forts, très imaginatifs. Et voilà, on vient de faire une tournée avec la Missa Solemnis de Beethoven, pas une œuvre facile. Enfin, je veux dire, au niveau de... C'est pas quand même le Messie de Handel. Et quand même, on a réussi à le vendre, puisqu'il s'agit bien de vendre, dans 5 ou 6 villes européennes. Et puis d'en faire un disque, ça demande simplement de la créativité au niveau du management. Parce que crise, enfin, c'est pas le lieu ici de parler de crise, je pense qu'on n'est pas encore... enfin, je veux dire, il y a toujours de l'argent, je pense qu'il y en a même beaucoup. Et il y aura toujours une activité économique, et peut-être que le disque est en crise, l'objet du CD, enfin... Mais je pense que aussi longtemps que nous ne serons pas dans une guerre totale et réelle, et ça peut arriver, mais il y aura toujours une activité artistique, j'en suis sûr, et donc une activité d'interprète, et donc cette activité d'interprète sera commercialisée, mais sans doute dans des formes différentes. Et donc il faut être créatif. Par exemple, imaginez, je pense que, j'imagine, on lit partout, que le CD en tant qu'objet va peut-être disparaître. Ben voilà, il faut ne pas rater le coche, quoi. Il faut être imaginatif. Mais peut-être que la crise de l'euro va faire de sorte que, en Hollande, par exemple, où je travaille également, quand même un pays riche, j'allais... a basculé un peu à droite. Et...
Oui, même plus qu'à droite.
Et, pardon ?
Plus qu'à droite, progressivement.
Même plus qu'à droite. Et le budget de la culture a été simplement diminué de moitié. Et donc, moi, j'étais un des deux chefs, un des orchestres de la radio. Cet orchestre disparaît. Je ne sais pas quel sera l'avenir de tout ce pan de la culture. Moi, je ne suis pas prophète, mais... On peut être optimiste, je n'en sais rien en fait. De toute façon, à titre personnel, j'ai plutôt trop de travail pour les 3-4 années qui vont suivre là. On verra bien. Mais je crois aussi qu'on peut faire autant de culture et la faire mieux avec pas nécessairement plus d'argent, mais même un peu moins. Voilà. C'est ce que je crois que... Je crois que cette crise dans tous les domaines va peut-être aura un côté purificateur. On pourra éventuellement se dire, oui, qu'est-ce qu'il y a finalement d'inutile dans... je vois certains orchestres dans certains pays avec une pléthore d'employés dans les bureaux dont on se demande parfois, faut-il vraiment qu'ils soient si nombreux? Et je pense pas. Je pense qu'il y aura, dans tous les domaines de la vie, on peut l'espérer, ce sera peut-être l'occasion de se demander qu'est-ce qui est maintenant vraiment essentiel, en fait. Et voilà. Donc, dans ce sens-là, je suis optimiste, mais je suis pessimiste parce qu'en Hollande, il y avait 17 orchestres, il n'y en a plus que 12. Et je trouve assez tragique le sort de certains musiciens, parfois très doués, qui ont fait des études de violoncelle au conservatoire, qui évidemment, comme tout le monde, sans doute espérait devenir soliste, vaguement, mais qui finalement sont entrés dans un orchestre, qui ont 40 ans, qui ont acheté une maison, qui ont 2 enfants, et l'orchestre est supprimé. Autrefois, il y avait l'échappatoire peut-être d'aller travailler en Espagne, parce qu'il y avait pas mal d'orchestres qui se créaient dans ce pays-là. L'Espagne, c'est pire. Et les gens qui ont 18 ans peuvent à la rigueur se dire, ben on ira en Asie, parce que là, c'est là que se trouve l'argent et de nouvelles opportunités. Mais ceux qui ont 2-3 enfants de 3, 6 et 8 ans, qui vont à l'école en Hollande, dont l'orchestre disparaît, ben ils peuvent pas non plus se dire, on ira dans l'enseignement, parce que l'école aussi est durement touchée, je veux dire, l'enseignement musical. Ben peut-être qu'ils pourront faire le taxi. Et ça, c'est quand même un peu du gâchis. C'est comme si on avait des générations entières de chirurgiens du cerveau qui, brusquement, n'ont plus de débouchés du tout. Mais je pense que je vous parle du milieu musical, mais évidemment, ce n'est pas que dans le milieu musical qu'il y a des drames humains qui sont en train de se mettre... Enfin, que beaucoup de gens subsistent actuellement. Et moi, j'ai 63 ans, et même si demain, je pourrais... enfin, ça ne me touche pas tellement. Et en tant que chef d'orchestre, je suis plus mobile, parce que je dirige. Mais pour beaucoup de personnes, c'est un véritable drame qui se manifeste plutôt dans les pays plus responsables que dans les pays irresponsables. Ou, je veux dire, enfin, irresponsables, je pense que les pays du nord de l'Europe ont toujours eu tendance à être plus responsables au niveau budgétaire. Ils ont une dette souveraine, je pense, moins prononcée. Et je pense que les clashs vont maintenant commencer à se produire dans des pays comme l'Espagne, c'est en train de se faire, l'Italie, ça va suivre. Et j'espère que la France va bien s'en sortir, disons.
Dans ce tableau sombre, quand il vous reste un peu de temps dans votre emploi du temps chargé, est-ce que vous écoutez de la musique quand vous n'en faites pas? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique chez vous? Est-ce que vous allez au concert de temps en temps? Est-ce que quand vous êtes dans un train, dans un avion, vous écoutez de la musique, pas spécialement?
Bien, aller au concert, c'est très rare, puisque sur... pratiquement tous les soirs, j'ai moi-même un concert ou une répétition, ou bien ce jour-là, j'aurais fait deux répétitions de 3 heures, donc on n'a plus tellement envie d'aller au concert. C'est uniquement lorsque je participe à certains festivals et qu'on est sur place.
Donc là, vous avez
et que, voilà. Et puis, pour moi-même, j'écoute pas mal de musique, mais je dois dire que c'est très souvent, malheureusement, soit c'est en fonction de ce que je suis en train de faire moi-même. Je dois dire, lorsqu'il s'agit de Bach, il ne m'arrive jamais d'écouter ni mes propres disques et pas non plus ceux des autres, parce que, c'est peut-être un peu prétentieux, mais j'ai l'impression d'avoir fait le tour des problèmes. Donc, tandis que quand je dirige du Sibelius, par exemple, un domaine que je connais très peu, mais que une musique merveilleuse, j'aurais tendance à me renseigner quel chef a été le plus proche de ce compositeur. Et puis j'aurais tendance à écouter ce chef-là ou ces orchestres-là dans ce répertoire-là. Voilà. Mais ça, c'est toujours du boulot, c'est du travail. Et pour mon propre plaisir, le plus grand plaisir, c'est peut-être le silence. Ou bien alors des musiques du monde dont je connais rien. Enfin, je veux dire, parce que quand j'écoute. Ça, c'est un désavantage.
Des formations professionnelles, si vous écoutez de la musique classique.
Quand j'étais jeune, j'écoutais les chants de la terre de Mahler et Sous les étoiles en Toscane, c'est ce que je raconte toujours. Aujourd'hui, quand j'écoute ça, je l'ai enregistré déjà moi-même et je compte le réenregistrer avec un. Je travaille, en fait, j'écoute, que, tiens, là, il fait quoi ou... Et donc, je n'ai plus de réel plaisir à écouter ça, c'est malheureux. Tandis que quand j'écoute à la rigueur du Quatuor, moi, je n'aurai jamais à le diriger. Et en plus, il y a encore des pans entiers de musique que je ne connais pas. L'opéra, j'écoute peu parce que ce n'est pas ma tasse de thé. Mais ce que j'écoute beaucoup, c'est plutôt la musique du monde, la musique iranienne ou la musique japonaise. C'est ce que j'écoute quand je suis dans ma petite maison de campagne en Italie. J'aurais tendance à écouter cette musique ou le jazz. Enfin, je n'y connais rien, mais je les découvre.
Il n'y a pas de déformation professionnelle dans ces cas-là.
Bien, j'ai des amis. Jarlman qui me font découvrir des pans de répertoire que je ne connais pas du tout. Mais écouter une symphonie de Beethoven, c'est une punition.
Merci Philippe Hervé.
Merci.
Thank you.
cobuz.com. Rencontre par Marc Zisman.